Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 182.
Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière.
Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode consacré aujourd'hui à 7 choses que j'ai apprises après avoir écrit 14 romans. Et j'aimerais les partager avec toi et peut-être que certaines choses vont avoir un écho auprès de toi et ou peut-être certaines autres, tu vas te demander pourquoi est-ce que c'est si important pour moi, mais en tout cas, en ce qui me concerne, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivée après ces 14 romans et ça me rajeunit pas. Alors la première chose que j'ai apprise, c'est le travail préparatoire, c'est la vie. C'est-à-dire bien réfléchir à l'histoire globale et au grand temps fort que j'aimerais mettre en place dans mon intrigue principale et dans mon roman. Attention, je suis pas du tout en train de prôner, même si moi je suis la team plan, mais je suis pas du tout en train de prôner le fait de faire absolument un plan avant de faire le premier jet, que c'est la seule chose qui existe en ce bas monde et que si tu ne fais pas de plan, c'est la catastrophe et tu vas jamais t'en sortir. En réalité, moi je pense qu'on fait tous un plan à un moment ou à un autre. Soit on le fait avant le premier jet, soit on le reprend et on le fait au moment de la correction du premier jet. Mais on est obligé intellectuellement de classer un peu les enjeux et de se dire oh « bah là j'aimerais mettre quelque chose d'un peu plus croustillant, là j'aimerais mettre quelque chose de plus tendu, là j'aimerais mettre quelque chose de plus triste ou de plus drôle au contraire ». Et très clairement, c'est quelque chose qu'on fait forcément à un moment ou à un autre. Donc le travail préparatoire est vraiment important. Puis il y a une autre chose aussi, c'est que quand on est sur le travail préparatoire, qui comprend d'ailleurs pas forcément un plan, hein, mais qui comprend le brainstorming, qui comprend la création des personnages, la création du monde, éventuellement si on écrit en fantasy, ce travail préparatoire c'est aussi une façon de libérer son esprit et d'être plus efficace et d'être plus détendu lorsque on en est à traduire le premier jet et à écrire le premier jet. Donc ça c'est vraiment important. Pour moi le travail préparatoire est une phase aussi importante que le premier jet et aussi importante que la correction. Ça te facilite vraiment grandement la vie et plus ton travail préparatoire il est balisé, plus ton premier jet va vite, plus ta correction va vite derrière parce que ton premier jet sera déjà très bon et quand je dis très bon c'est en rapport avec ce que tu avais en tête et ce que tu voulais faire passer comme message, comme histoire. Et comme façon de procéder. La deuxième chose à laquelle je suis arrivée après mes livres, c'est que les arcs narratifs des personnages, ça fait toute la différence. L'arc narratif du personnage, c'est en fait partir du début, de son statut au début de l'histoire, arriver à un statut de fin, et de voir l'amplitude d'évolution de ce personnage. Amplitude d'évolution qui n'est pas du tout linéaire et qui peut être constituée de pics, de retour en arrière, d'évolution ou de non-évolution. Voilà, quelque chose qui pourrait être très triste puisqu'il pourrait très mal finir par exemple. Et ça c'est valable pour tous les personnages. Pas forcément le protagoniste. Moi, je t'encourage à le faire même sur les personnages secondaires. Et même si tu vas pas forcément exploiter tout cet arc narratif, et je pense notamment aux personnages secondaires, le fait que toi, tu sais d'où tu pars et où il va arriver, ça va te permettre de les développer de façon beaucoup plus subtile que en plein milieu de ton manuscrit, te dire « Ah mince !» J'ai complètement oublié qu'à partir de ce moment-là, mon héros, il doit durcir le ton, ou au contraire, il doit devenir plus vulnérable, ou il doit prendre les choses en main, etc., etc. Et le fait d'avoir des à-coups d'évolution qui ne sont pas expliqués par l'histoire, bon bah si l'histoire explique qu'il vient de se prendre un tel choc sur le coin de la figure que du coup, il change complètement de façon de réfléchir et d'agir, ça se comprend. Mais si c'est pas expliqué par quelque chose dans la narration, c'est pas vraisemblable et c'est pas crédible. Or, je l'ai souvent dit dans les épisodes de cette chaîne de podcast, mais je le redis encore une fois, le lecteur, il entre dans l'histoire par la porte des personnages. jamais par la description ou l'explication. En fait, le lecteur va ressentir des émotions parce que tes personnages, peu importe lesquels d'ailleurs, parce que tes personnages ressentent des émotions. Et parce que l'histoire a un impact sur ses personnages, l'histoire va avoir un impact sur le lecteur. Si ton histoire n'a aucun impact sur les personnages, comment veux-tu que l'histoire ait un impact sur le lecteur ? Les deux sont liés. Donc il faut que tu crées ce lien de connexion entre le lecteur et le personnage. Et pour moi, créer des arcs narratifs dès le départ, c'est-à-dire soit avant le premier jet, soit en cours de construction, quand tu te lances dans le premier jet, tu commences à écrire et puis là, tu te mets à réfléchir en simultané à l'arc narratif de tes personnages. C'est vraiment, vraiment ce qui fait toute la différence entre un personnage réussi, crédible, vraisemblable, et un personnage qui est fabriqué, artificiel, et dont on voit le raccord et surtout l'incrustation artificielle dans le roman. Troisième petite chose que j'ai apprise, et c'est pas une petite chose en fait, c'est que le secret pour moi, c'est la hiérarchie des enjeux et ce qu'on appelle la tension narrative. C'est important dans ton intrigue de prévoir des pics de tension narrative. Et quand je parle de tension narrative, c'est pas forcément de l'horreur, c'est pas forcément quelque chose de tragique, c'est pas forcément un meurtre, etc. Ça se fait dans tous les genres. Mais à un moment, il faut que ton intrigue, elle se crispe. Il faut que le lecteur ait un peu peur pour la fin de l'intrigue et le devenir des personnages. Et même si tu fais, par exemple, à tout hasard, une rom-com de Noël, qui est quand même ce qu'on peut faire de plus doux, de plus réconfortant, de plus enveloppant comme écriture, eh bien tu peux prévoir des pics de tension qui font que, bah voilà, il y a des choses qui vont se passer et que les personnages vont avoir à relever un certain nombre de défis. Donc ça se fait dans tous les genres, mais c'est important de prévoir des enjeux dans ton récit et c'est important de savoir les hiérarchiser, c'est-à-dire d'avoir des enjeux très forts, c'est-à-dire bah, les enjeux qui, si jamais on n'arrive pas au bout, et bah, du coup l'histoire se termine très mal, et si jamais au contraire on les relève, on relève ces défis et on réussit à intégrer ces enjeux, et bien on réussit l'intrigue, donc des enjeux très très forts sans lesquels il n'y a pas d'intrigue principale, et des enjeux bien plus secondaires qui peuvent d'ailleurs aussi toucher plutôt des intrigues secondaires et des personnages secondaires. Et donc cette hiérarchie des enjeux va te permettre du coup de créer des pics de tension parce qu'il va y avoir une montée en tension et puis une redescente en tension. Si tous tes enjeux sont sur un pied d'égalité, tu vas te retrouver avec une écriture extrêmement linéaire. Et une écriture extrêmement linéaire est une écriture ratée parce qu'on ne peut pas avoir d'émotion avec quelque chose qui est de l'ordre de l'encéphalogramme plat. Ça ne fonctionne pas en fait. Donc vraiment, la hiérarchie des enjeux, c'est très important. Qu'est-ce que tu veux mettre comme moments cruciaux dans ton roman et dans ton intrigue principale ? Quatrième chose que j'ai apprise, c'est planifier absolument ces sessions d'écriture en sachant quoi écrire avant. Et ça, ça évite grandement les pages blanches. Alors moi, je vais t'expliquer comment je procède et comment on l'explique dans Devenir écrivain. Quand tu vas décider d'une plage d'écriture, donc tu sais que tu vas partir pour, je sais pas moi, une demi-heure, une heure ou deux heures d'écriture par exemple, c'est important que tu réfléchisses à ce que tu vas être sur le point d'écrire. Si par exemple tu fonctionnes en chapitre, par exemple tu t'arrêtes pas tant que t'as pas écrit ton chapitre, eh bien avant tu vas lister, alors sous forme de course, hein, vraiment sous forme de tiret, de listing, tout ce que tu dois mettre dans ton chapitre, tout ce qui est important à mettre, et tu vas relativement dans le détail comme une espèce de liste de courses. Si par exemple c'est une partie de chapitre parce que toi tu raisonnes en temps et pas en chapitre et en nombre de mots par exemple, eh bien tu fais pareil sur ce nombre de paragraphes ou de chapitres. Mais c'est important pourquoi ? Parce que en fait tu vas complètement libérer ton esprit puisque tu auras listé sur un papier tout ce que tu es censé dire. À partir de là, ton esprit il est plus clair et donc tu sais où tu vas te reporter à ta liste régulièrement quand tu écriras ton chapitre et tu vas aller beaucoup plus vite parce que ton esprit du coup va se concentrer uniquement sur la forme et le fond de ton chapitre parce que pour ce qui est de savoir quoi écrire, tu le sais déjà juste avant. Et moi je trouve que c'est quelque chose qui est d'une redoutable efficacité et je sais que personnellement ça m'a permis d'écrire beaucoup plus vite. Cinquième chose qui un peu, découle un peu de la quatrième, c'est déterminer une plage horaire qui sera non négociable. C'est-à-dire que pour que l'écriture soit de plus en plus facile et de plus en plus rapide, il faut que ton cerveau l'intègre comme une activité banale, au même titre que aller faire tes courses, que te rendre à ton travail, que faire du sport si jamais tu fais du sport, ou que réaliser certains de tes hobbies, préparer à manger, voilà. Il faut que ça devienne une tâche complètement banale que tu intègres absolument à ton emploi du temps et que ça devienne non négociable dans ta semaine. Et attention, ça ne veut pas dire prévoir absolument une heure tous les jours à l'écriture parce que peut-être que tu ne pourras pas consacrer une heure de ton temps à l'écriture et c'est pas grave, mais c'est au minimum quelque chose par semaine. Plus tu vas prévoir une plage horaire non négociable dans ton emploi du temps et plus ton esprit va considérer l'acte d'écriture comme quelque chose de banal, donc dont l'enjeu n'est pas si important et donc qui ne va pas freiner des cas de fer quand il s'agira de te remettre devant ton écran et de te remettre à écrire parce que c'est quelque chose que tu auras l'habitude de faire. Et donc ça, c'est vraiment important que ce soit non négociable. C'est vraiment... Moi, je pense l'expression très appropriée là-dessus, c'est que dans ta semaine ou dans ton week-end, selon comment tu fonctionnes et selon ce que tu peux consacrer à l'écriture par rapport évidemment à l'entièreté de ton emploi du temps, ça doit devenir une plage horaire non négociable. Sixième chose que j'ai appris pendant que j'écrivais mes 14 romans, c'est que tu auras nécessairement des baisses de forme et des moments où tu vas adorer écrire ce que tu écris et tu vas te dire que tu fais l'activité et le job le plus génial du monde et tu vas passer par des moments où tu te demandes pourquoi tu t'infliges ça, à quoi ça sert, à quoi ça rime, ça sert à rien et que tu perds ton temps et que tu t'illusionnes sur la façon dont ça va tourner. Et même pire, tu vas pouvoir te dire que tu es le pire auteur qui existe et que finalement, ton écriture, personne s'y intéresse et ça ne touchera personne. Et ça, c'est normal et c'est complètement OK. Il faut que tu te dises dès le départ que ça fait partie des moments de dépression littéraire, si je peux m'exprimer ainsi avec beaucoup de guillemets, évidemment, qui font partie de la routine d'écriture. Il y a des moments, tu vas être très enthousiaste, tu vas écrire énormément, tu vas te dire que vraiment t'as eu une idée géniale, que tes persos sont top, que ce que t'as écrit c'est super, et puis peut-être un mois plus tard ou même 15 jours plus tard, tu vas te dire mais c'est pas possible, comment j'ai pu écrire ça, ça va jamais marcher, aucun éditeur ne sera jamais intéressé. Et cette variation d'humeur et ce rapport d'amour et de haine avec ton roman, il est tout à fait normal. Et quand tu vas arriver à un moment, à cette période de amours de ton travail, il faudra que tu te répètes, c'est ok, c'est complètement normal, donc je vais la laisser me traverser, tu la laisses te traverser parce que tu sais que c'est qu'un moment à passer et que ça fait partie de la routine d'écriture. Et puis, la septième chose, et ça je pense que si tu écoutes mes épisodes de podcast, ça ne te surprendra pas, c'est que écrire c'est un vrai métier et qui demande un savoir-faire et même un savoir-être. Et que ça demande des connaissances, c'est pointu, c'est rigoureux, c'est contraignant, et que tout le monde ne peut pas écrire un roman, tout le monde peut se former à écrire un roman, mais tout le monde ne va pas forcément au bout de l'écriture de son roman et ne va pas au bout de sa carrière. Donc ne laisse jamais personne te dire qu'écrire, c'est pas un vrai métier. Voilà ce que je voulais partager avec toi et surtout je voulais te dire, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu à notre newsletter sur licares.fr, licares.fr pour évidemment plus d'anecdotes et plus de conseils d'écriture et moi je te dis à très très vite pour un nouvel épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licares.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel. Alors toi aussi, rejoins-les sur licares.fr/formation.